Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 50, Daf Nun. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara répond Rabbi Meiri. Il s'agit de l'opinion de Rabbi Meir de Tania, puisqu'une Braïta enseigne. Hayar Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que le verset dit? Il s'agit du verset 5 du 21e chapitre de Varim, dans lequel on parle des juges. Et on dit, en parlant des juges, en fait, là-bas, ce sont des Kohanim en tant que juges, Alpiem, Yiye, Kolriv, Vechol Naga. C'est d'après leur décision que sera réglée toute dispute et que sera statué sur toute plaie. Nega, qui peuvent rendre impur au titre de Metzora. Vechima, Inyan, Rivim, Etzel, Negaim. Quel rapport peut-il y avoir entre les disputes et les plaies? Et l'Agma répond, Makish Rivim Lingaim. Il y a une comparaison entre les problèmes d'argent et les problèmes de déterminer quels sont les types de plaies, d'affections de la peau qui rendent Metzora. Manegaim Bayom. De même que les plaies en question ne peuvent être examinées que le jour. Irtiv Uviom Hera Odbo, etc. Pasuk de Vayikra dans le 13e chapitre, le 14e verset. Le jour où apparaîtra, etc., une chair qui est guérie, etc. Donc on voit que ça se passe que le jour. Af, rivim, bayom. De même, les jugements concernant les disputes doivent être menés le jour. Uman, gaim, shelobesuma. Et de même que les plaies ne peuvent être examinées que par celui qui n'est pas aveugle. Dirtiv, comme il est écrit, le chol mare ene a kohen. Dans le 12e verset du 13e chapitre de Vayikra, à toute l'étendue de la vision du Kohen, donc ceci exclut les aveugles, Af Rivim Shelo Besuma. De même, les juges qui s'occupent des disputes ne doivent pas être aveugles. Umakish Negaim Nerivim. Mais ce verset vient également faire une comparaison entre les plaies et les disputes, c'est-à-dire apprendre pour le jugement des plaies, des éléments que nous connaissons à propos des disputes, ma rivim, shelo bikrovim, de même que pour des disputes, les juges ne doivent pas être des proches, en famille avec les plaideurs, afnegaim, shelo bikrovim. De même, l'examen des plaies pour rendre ou non Metzora doit être fait par des kohanim qui ne sont pas en parenté avec la personne que l'on examine. La Gemara va maintenant s'interroger pour savoir si on pousse cette comparaison pour d'autres points, notamment le nombre de juges. I, s'il en est ainsi, marivim bishlosha, de même que pour une dispute, c'est-à-dire des contestations concernant de l'argent, on exige qu'il y ait trois juges, af negaim bishlosha, on devrait peut-être exiger également qu'il y ait trois kohanim qui statuent sur les plaies qui rendent éventuellement Metzora, vedinu, et on pourrait en faire un kalvachomer, un argument a fortiori. Mamono bishlosha, si déjà pour son argent on se met à trois gouffo pour sa propre personne, pour son propre corps, la kolcheken, n'est-ce pas, a fortiori qu'il faut au moins trois personnes. Talmud Lomar là-dessus, le verset dit à propos de celui qui a un problème qui pourrait le rendre Metzora, Behuva el Aharon a Kohen, o el Achad mi banav a Kohanim. Il sera conduit chez Aharon le prêtre, ou chez l'un de ses fils, les prêtres. Alamatta, donc le verset vient te dire clairement, Shafilu Kohen Echad roet anegaim. Qu'il suffit d'un seul Kohen pour statuer à propos des plaies de la peau qui peuvent rendre Metzora. La Gemara rapporte un cas particulier. Aou Samia de Ave Beshivute de Rabbi Yochanan. Il y avait un aveugle, littéralement, qui était dans le voisinage de Rabbi Yochanan, mais en fait, comme le précise les Rishonim et comme la Gemara l'impose dans la suite du raisonnement, en vérité, il n'était aveugle que d'un œil. C'était donc un borgne. Dava Kadayen Dina, et il était juge. Velokamar Lev Lomide, Rabbi Yochanan ne lui a jamais fait de reproche. Et l'Agmara s'interroge, Echi Avidachi, comment Rabbi Yochanan a-t-il agi ainsi, de ne rien lui dire? Ve'ahama Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan il a dit, Alacha ki stam Mishnah. L'Alacha suit toute Mishnah qui est stam, sans nom d'auteur. Utnan, et dans notre Mishnah on a dit, Kola kasher ladun kasher le'aïd. Veyesh kasher la'id ven kasher la'dun, tout celui qui peut être juge peut être témoin, mais il y en a qui peut être témoin ne peut pas être juge. Ve'amrinan latuy emay, nous avons demandé de quel cas s'agit-il. Ve'amar Yochanan, et justement Rabbi Yochanan a dit latuy suma be'achat me'enav, cela vient inclure le cas d'un borgne et nous, donc Rabbi Yochanan dit qu'Abor ne peut pas être juge. Ma répond Rabbi Yochanan Stamach Harina Ashkar. Rabbi Yochanan a trouvé une autre Mishnah qui n'est pas plus au nom de quelqu'un de particulier, donc qui est également déterminant pour la halakha. Ditnan, comme on a appris dans la Mishnah du Daf Lamed Bet de Sanhedrin, Dinem Amonot Danin Bayom Vegomerin Balayla. Il est vrai que l'on commence les jugements concernant des questions d'argent le jour, mais on peut les terminer la nuit, ce qui sous-entend, comme l'explique Rashi, qu'on ne tient pas du Hekesh entre les disputes d'argent et les plaies, pour exiger que ça ne se passe intégralement que le jour. Autrement dit, cette Mishnah de Sanhedrin permet même à un borgne de juger des affaires d'argent. La Gemara s'étonne, Umay Ulmed Haistama, mais Haistama. Quelle est la supériorité de cette Mishnah sans nom d'auteur, celle de Sanhedrin, sur notre Mishnah sans nom d'auteur? La Gemara propose deux réponses. Iba et Tema, si tu veux, je peux te répondre, Stama de Rabim, Adif. Une Mishnah qui rapporte le nom de la majorité, ce qui est le cas de la Mishnah de Sanhedrin, elle est préférable à celle de chez nous, qui est vrai Stama, mais dont on a vu qu'elle représente un avis isolé, qui est celui de Rabbi Meir. Viva Itema, si tu veux, je peux te donner une autre réponse qui justifie que Rabbi Yochanan ait suivi la Mishnah anonyme de Sanhedrin plutôt que la nôtre. Mishum de Ktaneleg Abeir Cheta Dedine. Parce que la Mishnah de Sanhedrin, elle est enseignée dans le contexte des jugements, alors que chez nous, elle vient en passant. Et donc, une Mishnah qui est dans son contexte a plus de poids qu'une Mishnah qui se trouve dans Nida. Mishnah suivante. Kol Shechayav Ma'asrot Metame Tum'at Ochlin. Tout aliment qui est soumis à l'obligation de prélèvement de Maaser devient impur en tant qu'aliment. Veyesh Shemetame Tum'at Ochlin. Mais il peut y avoir des aliments qui ont la Tum'a due aux aliments. Veno Chayav Ma'asrot. Malgré cela, il n'est pas soumis à l'obligation de Ma'asrot. La gouvernement de la Touyemaï, quel est le cas inclus, c'est-à-dire quels sont ces aliments qui, sans jamais ne pouvoir être soumis à l'obligation de Maasrot, deviennent quand même impurs et peuvent rendre impurs en tant qu'aliments? La gouvernement répond avec une réponse qui est relativement simple. Les Atouyé, Bassar, Vedagim ou Betim. Ceci inclut la viande, la chair des poissons ou encore les œufs. Mishnah suivante. Kol Shechayav Be'Pea, Chayav Be'Maasrot. Toute récolte d'Eretz Israël qui pousse d'une manière telle qu'on est obligé de laisser une partie du champ, ce qu'on appelle le coin du champ PA, Chayav Maasrot est automatiquement soumise à l'obligation des Maasrot. Mais il peut y avoir des champs, des récoltes en Eretz Israël soumises à l'obligation de Maasrot, Veno Chayav PA, et malgré tout, leur plantation, leur champ ou leur verger n'est pas soumis à l'obligation de PA. La Gemara demande la Touyemaï. Qu'est-ce que cela vient inclure? L'Agma répond la Touyetena Veyerek Sheno Chayav Pea. Ceci vient inclure les figues ou encore les légumes qui ne sont pas soumis, en tout cas d'après la Torah, à l'obligation de Pea. Et sous-entendu, ils sont malgré tout soumis à l'obligation de Maaser Ditnan, comme nous apprend une Mishnah qui émane de la Maseret Pea. C'est la quatrième Mishnah du premier Perek de la Maseret Pea. Klal Amru Bepea. On a donné une règle générale concernant l'obligation de Péa. Kol Shehu Ochel, tout ce qui est un aliment, Venishmar, et qui se conserve, Vegidulo Min Haaretz, et qui est un produit de la terre, ou le Kitato, et il est récolté en une seule fois, ou Marniso le Kiyum, et il est stocké, et il survit à ce stockage, c'est-à-dire qu'il est capable de résister pendant un certain temps, à l'usure, à la pourriture, Hayav Péa. Une telle récolte est soumise à l'obligation de PA sur le champ ou sur le verger, il faut laisser un coin. La Gemara va nous expliquer exactement ce qui est exclu par chacune de ces cinq conditions. Ochel, un aliment, le biutet shire satim vekotsa. Ceci vient exclure les pousses spontanées de deux plantes qui ne sont pas destinées à l'alimentation mais à servir de teinture. L'une c'est satim, c'est une variété de safran, et l'autre c'est kotsa, c'est le pastel des teinturiers. Venishmar, il faut que ceci soit conservé. Les miutefker, ceci vient exclure une récolte qui n'a pas de propriétaire. Le gidolomina aretz, quelque chose qui pousse de la terre, le maute, kmehim ou pitriot, ceci vient exclure les truffes ou les champignons, le kitatokerad, une plante dont la récolte se fait en une seule fois, le meutetaena, ceci exclut les figues, dont on sait qu'elles se cueillent au fur et à mesure parce que chaque figue ne mûrit pas en même temps que sa collègue, ou machniso le kioum, le meutetayerek, et quelque chose que l'on peut stocker à longue durée, ceci pour exclure les légumes qui ne durent pas très longtemps. Tandis que en ce qui concerne l'obligation de prélever de la dîme sur les récoltes d'Eretz Israël, voilà ce qu'enseigne une Mishnah, qui est la première Mishnah du premier chapitre de Maasrot, Kol Shehu Ochel, tout ce qui est un aliment, Venishmar, et qui est gardé, Vegidulo Min Haaretz, qui provient de la terre, Chayav Maasrot, ces trois conditions suffisent pour qu'il soit soumis à l'obligation de prélèvement. Veilu, tandis que le Kitatok Echado Martiso le Kiyum, la katani, l'obligation à ce que sa récolte se fasse en une seule fois et qu'on le stocke à longue durée, ceci n'est pas enseigné par la Mishnah parce que ce n'est pas nécessaire. La Gemara précise, s'il y avait parmi eux des os, c'est-à-dire de l'ail et des oignons, hayavin, eux sont soumis à l'obligation de PA parce qu'ils se conservent à longue durée. Ditnan, comme on a enseigné dans une Mishnah, c'est la quatrième Mishnah du troisième chapitre de PA, Malbenot Betsalim Sheben Ayarak, les rangées d'oignons qui sont entre d'autres plantations de légumes, Rabbi Yossi Omer, PA Mikolachat Vachat, Rabbi Yossi dit, chaque rangée doit être soumise individuellement à l'obligation de PA. La Chachamim Omrim, tandis que les Chachamim disent, Me'achat à la colle, il suffit de prendre la PA d'une des rangées, et ceci dispense toutes les autres rangées du même champ, même s'il y a alternance entre les rangées d'oignons et les rangées d'autres légumes. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit donc qu'il y a confirmation du fait que les oignons sont soumis à l'obligation de PA. Amar Rabba Bar Bachana Amar Biochanan. Rabba, le fils de Bachana, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ulshin, chez Zraan Mitrila Labema, des Ulshin, alors parfois on traduit cela par de la chicorée, puisque ceci est cité parmi les cinq plantes qui sont destinées à être utilisées pour le maror. D'autres disent que c'est un fourrage, et justement c'est l'objet de notre discussion. Ulshin Shezraan Mitrila Labema. Nous ne traduirons pas le terme de Ulshin parce que il n'y a pas certitude sur l'identification de cette plante, mais enfin c'est un genre de chicorée. Donc, une chicorée ou de l'endive qui a été plantée à l'origine, Mitrila, pour la consommation des animaux. Venimna Khalen la Adam. Et ensuite, le paysan a changé d'avis et il a décidé de les utiliser pour l'alimentation humaine. Et alors, le principe est le suivant, c'est qu'un aliment destiné aux hommes, il est Mekabel Touma, Touma Tochel, il peut devenir impur, tandis que ceux qui ne sont destinés qu'à être du fourrage, à l'alimentation animale, ne le reçoivent pas.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Dafnun Amud Bet.
Et alors la Mishnah dit, Tzichot Machashava Lich Sheyitalshu. Il faudra malgré tout confirmer cette intention de les utiliser pour l'homme lorsqu'ils auront été détachés du sol, pour qu'ils puissent être susceptibles de devenir impurs en tant qu'aliment. L'Agmara explique, Savar, Rabbi Yochanan pense, Marchevet Ribour, Loshma Marchava. Une intention qu'on avait alors que l'aliment, la plante était encore rattachée au sol, n'a pas une valeur halachique d'intention. Amar Rava, confirme, Af Anan Nami Tanina. Nous également, nous avons appris cela dans une Mishnah. Elle est dans le premier chapitre de Taharot. Shlosha Asar Dvarim Nemru Benivlatov Tahor. Il y a 13 dinim qui ont été dits concernant le cadavre d'un oiseau qui est de catégorie autorisée. On a déjà parlé de cette fameuse Nivlatov Tahor, c'est-à-dire c'est un oiseau kasher type poule ou colombe, mais qui n'a pas eu de Shrita Kshera et qui est donc Nevela. Et voici l'une de ces 13 halachot, Sricha Machashava. Il est nécessaire d'avoir l'intention affirmée d'en consommer pour qu'il puisse devenir impur. Benatricha Hercher. Mais par contre, pour devenir impur, on n'a pas besoin d'avoir été trempé à l'avance dans l'un des sept liquides qui s'appelle marchirine. Hein, on sait qu'il y a sept liquides qui, lorsqu'ils ont humecté un aliment, donnent à cet aliment solide la possibilité de devenir impur. Alors cette nivlat of tahor n'exige pas de hercher préalable. Et la Rava en déduit, Alma il en ressort donc, Marchevet Chaim, la Shema Mahashava. Que l'attention qu'on avait normalement d'utiliser cet animal comme aliment, alors qu'il était encore vivant, n'est pas une Mahashava valable. Achanami, d'une manière comparable ici, Marchevet Chibour, Loshma Mahashava. De même qu'un oiseau, tant qu'il est vivant, il n'est pas encore consommable. De même, une plante, lorsqu'elle est encore attachée au sol, elle n'est pas normalement consommable. Et lorsqu'on a pensé à la consommer alors qu'elle est encore en kibour, ou rattachée au sol, l'ashma mahashava, une telle attention n'est pas une attention qui a une implication halakhique. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera, elle n'est pas d'accord avec la preuve de Rabba, il lui dit, Arab gozal shenafal minaha arom askinad. Dans la Mishnah dont on parle, il s'agit d'un petit oiseau qui est tombé de haut. C'est-à-dire qu'il a eu un accident, il n'a pas pu voler, il a fait une chute depuis l'altitude et il s'est brisé, donc il est devenu effectivement nevela, de l'Ava Kaman de l'Erchov allait. Et donc il n'était pas, c'était pas un oiseau, une volaille de basse-cour à laquelle on pouvait penser à l'avance, c'est un cas qui s'est présenté par exemple d'un pigeon d'une perdrix qui s'est fracassé en vol et qui est devenu nevela pour cette raison. Sous-entendu, d'après Rabbi Zera, si c'était un oiseau dont on disposait avant qu'il ne soit mort, l'intention qu'on aurait eue de son vivant aurait été peut-être valable. Amarle Abaye. Abaye lui a dit, Tarnegolet Chebeyavne Maikalemema. Que diras-tu concernant la poule qui est à Yavne? Il s'agit là, comme Rachid explique, d'un cas concret d'une poule qui était dans la ville de Yavne et qui est morte là-bas. Et les Chachamim de Yavne avaient considéré qu'elle était susceptible de devenir impure parce qu'il y avait des koutim, ce dont on avait parlé au début du pérek précédent, donc des non-juifs qui avaient l'intention de la consommer. Pourtant, une poule est un oiseau qui n'est pas sauvage et qui était disponible déjà de son vivant. Et malgré cela, on voit qu'il était nécessaire d'avoir une Mahashava pour qu'elle puisse devenir impure. Alors là-dessus, là, Rabbi Zera répond à Marley, Tarnegol Bara Ava. Il s'agissait en fait d'une poule sauvage, littéralement d'un coq sauvage. A Rikwale, les gens qui écoutaient Rabbi Zera, ils ont rigolé. Tarnegol Bara Oftamehu. Il s'agissait non, s'il s'agit de, d'un coq de bruyère, un coq sauvage, c'est un oiseau qui n'est pas cachère, il est tamé. Veuf tamé, mi kam tamé. Et un oiseau impur, c'est-à-dire qui n'est pas autorisé à la consommation, est-ce qu'il a cette touma? On sait bien que la touma de Nivlat of Tahor, lorsqu'on avale un kazaït de cadavre d'un oiseau cachère, c'est uniquement un oiseau cachère. Et donc, ça ne pouvait pas du tout cadrer avec ce que les Chachamim pensaient. Amar le Abaye, Abaye a rétorqué à ceux qui se moquaient d'Rabbi Zera, Gavra Rabba Amar Milta, voici qu'un grand homme a dit quelque chose, Lotachiku Ale, ne vous moquez pas de lui. Mais Tarnegolet chez Marda, en fait il s'agissait non pas d'un coq sauvage à l'origine, qui est un coq de bruyère qui n'est pas cachère, mais il s'agissait d'une poule qui à l'origine était dans une basse-cour et qui ensuite, Marda littéralement, elle s'est révoltée, c'est-à-dire qu'elle est devenue sauvage. Et comme l'explique Rashi, étant donné qu'elle est devenue sauvage, elle a eu des petits dans des zones inhabitées, et ensuite c'est un de ces petits qui est tombé mort à Yavne et qui avait donc le caractère sauvage, et n'ayant jamais été dans un endroit habité, personne n'avait pensé à le consommer. Et ajoute la Gemara Omay Bara, pourquoi la qualifie-t-on d'après Rabbi Zera de sauvage? De Bara a Mimare, parce qu'elle avait quitté son maître. Rav Papa Amar, Rav Papa de son côté, il dit non, il s'agit d'un autre cas de le problème de la poule de Yavne, Tarnegolta de Agma Avaye. Il s'agissait d'une variété qui s'appelle la poule des marais. Rapapa le Tamé. Rapapa suit sa propre opinion de Amar Rapapa. En effet, Rapapa il a enseigné qu'il y a deux variétés de Galinacée qui sont dans les marais. Tarnegolda Agma Assour, le coq des marais, il est interdit, c'est un oiseau non cacher. Tarnegolta de Agma Sharia, tandis que la poule des marais est autorisée. Vesimanach, et pour te rappeler lequel est permis, lequel est interdit, rappelle-toi ce que la Torah a permis aux Ammonites, c'est-à-dire à une femme d'origine de la du peuple de Ammon qui descendait de Lot. Elle a le droit de se marier avec un juif, tandis que Ammonie, un homme de cette peuple-là, n'a pas le droit. Halakha bien connue, qui se dit Ammonie velo Ammonite. Ici également, le coq est interdit, alors que la poule est permise. Il y a une discussion pour savoir s'il s'agit de deux variétés distinctes, mais l'une s'appelle la poule des marais, même si elle a Zahar et Nekeva, des mâles et des femelles. L'autre s'appelle le coq des marais, bien qu'il y ait mâles et femelles. Quoi qu'il en soit, d'après Rav Papa, ce coq des marais est interdit et la poule des marais est permise. Darash Meremar. Meremar, lui par contre, il pense différemment que Rav Papa. Et il a enseigné Tarnegolta de Agma Asira. La poule des marais, elle, est également interdite. Et il donne une raison à cela. Chazyu Arbanan de Darsa Vachla. En effet, les Chachamim ont regardé comment se nourrissait cette poule et ils se sont aperçus qu'elle était de la catégorie de ceux qui sont dorés, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, notamment dans sa deuxième explication, qui tiennent leur alimentation sous leurs pattes pour ne pas tout consommer à la fois, et c'est une des caractéristiques des oiseaux non cachers. Et la Gemara dit, Vainu Giruta, et c'est cette poule des marais qui s'appelle Giruta et qui est bien connue comme étant un oiseau interdit. Autrement dit, la Gemara semble conclure contre ce que pense Rav Papa. Revenons-en maintenant à l'histoire de cette poule de Yavné. On a une braïta qui va rentrer dans les détails, une braïta qui est un peu difficile. Tanou Rabanan, nos maîtres ont enseigné. Gozal Chinafal Legat, un noisillon qui est tombé dans un pressoir à vin. Donc le propriétaire du pressoir sait qu'il y a un oiseau, apparemment un oiseau cachère, qui n'a pas eu de shrita, donc c'est Nivlat of Taor. Le Chachab Alav la Loto le Khouti. Il a pensé le prendre de là-bas pour le donner à manger à un kouti qui ne mange pas évidemment avec shrita, donc qui peut le manger. Tamé. Dans ce cas-là, il devient immédiatement impur. La Kelev. Si par contre l'intention du propriétaire de ce pressoir à vin était de le donner à un animal, un chien, Tahor, cet animal mort est pur. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer. Tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri, il a une autre opinion, il dit Af, la Kelev Tamé. Quand bien même il n'avait l'intention de le donner qu'à un animal, et donc que ça n'est pas un aliment humain, il est quand même impur. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Kalvachomer. Rabbi Yochanan ben Nouri va raisonner par un raisonnement logique pour justifier son point de vue, de dire que c'est impur même si l'intention du propriétaire a été de le donner seulement à un animal, donc de ne pas en faire un aliment. Im mitametum achamura shelo b'machashava. S'il devient... Il rend impur avec une forte touma, c'est-à-dire qu'il rend impur même l'homme qui le mange, qui est en train de l'avoir dans son gosier, ainsi que ses habits, sans qu'on ait eu l'intention de le manger. Rashi explique que quand bien même celui qui est en train de manger un kazaït, gros comme une olive, de ce cadavre d'oiseau pur, n'est pas du tout au courant de cela, donc il n'a aucune machashava, cependant ses habits deviennent impurs et lui-même aussi. Donc il y a une forte capacité de rendre impur. N'est-il pas logique de dire qu'il peut également rendre impur d'une impureté légère, c'est-à-dire qu'il rende impur les aliments et les boissons, même si on n'a pas eu l'intention de le consommer. Amroulo, les Chachamim l'ont répondu, l'eau, ceci n'est pas valable. Tu dis ce que tu dis et tu as raison en ce qui concerne la Touma stricte, celle qui rend tamé l'homme et les habits, parce que là-bas on n'a pas besoin de cette préparation. Tomar Betouma Kala, peux-tu dire la même chose pour une Touma légère? Sheken Yored Et Lekar, on a besoin de cette préparation. On reste vague dans le sens de Sheken Yored Et Lekar, parce que cela va faire l'objet d'une discussion dans le DAF 51 un peu plus loin. Amar Lehen, Rabbi Yochanan Ben Nouri a rétorqué au Chachamim. Tarnegolet Shebiyavne Tochiar. Je vais amener une preuve de la raison que j'ai à partir du fameux cas de la poule de Yavné. Sheyored Et Lekar, qui avait besoin de cette préparation. Eh bien, les Chachamim l'ont considéré comme impur, d'une impureté légère, c'est-à-dire en tant qu'aliment, sans qu'il y ait eu d'intention de l'utiliser comme aliment. Amroulo. Les Chachamim l'ont répondu, Misham Reaya, c'est de là-bas que tu vas amener une preuve. Là-bas, dans le cas de la poule de Yavné, c'était très différent. Kutim Hayu Sham. Il y avait des goyim, des non-juifs qui étaient là-bas. Rassou aller à l'Achila, et les propriétaires avaient pensé le donner à manger à des coutumes, donc automatiquement il y avait eu effectivement une préparation. La Gemara va se demander de quoi il s'agit exactement. Bemaï Askinan, de quoi parlons-nous? C'est-à-dire dans quel contexte ceci se passe-t-il? Il est ma bakerachim, s'il s'agit d'un animal, donc d'une nivlat oftaor, du cadavre d'un oiseau de catégorie pure qui n'a pas eu la shrita, et qu'on est dans une grande ville, lama lama chashava, qu'avons-nous besoin d'une intention de le donner à manger à un non-juif? Behatnan, n'est-il pas écrit dans une Mishnah, cette Mishnah qui est dans la troisième partie, le troisième chapitre de Uktsin, Nivlat Bema Teora Bechol Makom, en ce qui concerne le cadavre d'un mammifère pur, dans quelque lieu que ce soit, Venivlat Oftaor Vachelev Bakrachim, ou encore en ce qui concerne le cadavre, donc sans shrita, d'un volatile de type pur, ou encore de des graisses interdites dans les grandes villes, Kerachim, Entrichid Lomar Shavav Loercher. Elles n'ont besoin pour devenir un aliment impur, ni d'une intention de les donner à consommer, ni d'une humectation avec l'un des fameux liquides. Et là, Bakefarim, c'est donc que il s'agit de, dans la Braïta, lorsque cet oiseau est tombé dans une presse de raisin, il s'agissait donc d'un village. Umi ika le mandamar de l'obaya marshava. Y a-t-il quelqu'un qui pense que dans un village il n'a pas besoin d'intention de le donner à consommer? Ve'atnan, pourtant la Mishnah en question dit, nivlat be matmea bechol makom. En ce qui concerne le cadavre d'un animal impur, en tout lieu, et le cadavre d'un oiseau de type pur dans les villages, il est nécessaire d'avoir une intention d'en faire un aliment pour les hommes. Évidemment, il s'agirait en l'occurrence de non-juifs qui le mangent. Mais on n'a pas besoin de qu'elle passe par un liquide, on n'a pas besoin du hercher, de l'humectation. Et donc, comment la Braïta pourrait parler d'un oiseau qui est tombé dans une gâte d'un village? Sans rentrer dans le détail de l'explication de cette Mishnah de Uktsin qui est relativement complexe, disons simplement à nos auditeurs que dans une grande ville, on considère qu'il y aura automatiquement des consommateurs qui sont prêts à manger un tel cadavre, alors que dans les villages, cela n'allait pas évident. D'autre part, étant donné que, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, grâce au Kal Vachomer qu'il a fait, il dit qu'il n'est jamais nécessaire d'avoir une intention, de toute façon, il est mis en porte-à-faux par la fin de cette Mishnah, qui dit qu'il faut une Mahashava au moins dans les villages. Amar Rabbi Zera Bachanina. Rabbi Zera Bachanina a répondu, l'Olam Bakerach. En fait, la Braïta en question parlait d'un cas qui s'est produit dans une grande ville. Ve Gito Miyasatu. Mais le fait qu'il soit tombé dans le pressoir, cela l'a rendu écœurant. Vasaatu bakefar. Et ça donne à ce volatile mort le même statut que dans un village, c'est-à-dire qu'a priori personne ne va en manger, sauf si on a un consommateur pour qui on a pensé d'une manière claire. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri l'a dit, Kal Vachomer. Je peux faire un Kal Vachomer. Im metamea tum achamura shelo b'machshava. On reprend donc ce qu'on avait cité auparavant. Si déjà il peut rendre impur d'une touma très forte sans qu'on ait une intention, est-ce que sans intention également il ne peut pas donner au moins la touma kala des ochlin ou mashkin aux aliments et aux boissons? Aboulo le chachamim a répondu, lo. Non, ce kal vachomer n'est pas vrai. Imamarta betouma chamura. Ce que tu as dit est vrai pour une touma stricte, celle qui rend impur celui qui est en train d'avaler ce kazaïd de cadavre d'oiseau pur, il devient impur ainsi que ses habits. Sheken, ena, yoredet lekar. On n'a pas besoin de cette préparation. La Gemara demande, mai, ena, yoredet lekar. Qu'est-ce que cela veut dire, on n'a pas besoin de cette préparation? Amarava. Rava a répondu, achi ka amrele. Voilà ce que les chachamim disent à Rabbi Yochanan ben Nouri. Lo, non. Imamarta. Si tu dis qu'il est nécessaire d'avoir une kavana, et donc là on a terminé le dafnoun.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.